これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la réalisation, François Connac.
À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. Comment avoir la maîtrise de ses affects? En leur faisant la guerre ou en faisant la paix avec la partie de soi-même qu'on voudrait réduire au silence? En leur imposant le joug de la volonté ou en se souvenant que la volonté elle-même n'est séparable ni du corps ni des passions? Bref, via Descartes ou via Spinoza? Car le choc de ces deux titans n'est que l'autre nom de l'alternative entre le sentiment archi-répandu qu'une âme bien conduite peut acquérir un pouvoir absolu sur les passions et l'expérience universelle mais difficilement explicable selon laquelle l'esprit n'est rien d'autre que l'idée du corps. Spinoza contre Descartes ou Descartes contre Spinoza? C'est le sujet, c'est le cas de le dire, le sujet du jour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
D'où vient que la lecture de l'éthique soit si difficile ou difficultueuse dès lors qu'on se décide à franchir le seuil des appendices et à s'engouffrer dans le formidable édifice? C'est en tout cas l'expérience qu'il m'a été donné de faire en ouvrant la troisième partie de l'éthique, consacrée à l'origine et à la nature des affections humaines. Pourquoi parler des passions en géomètre, comme Spinoza se propose de le faire, quand on pourrait le faire en poète? Qu'y a-t-il à dire de plus qui n'ait déjà été dit dans les pièces de Racine? La fluctuation de l'amour et de la haine n'est-elle pas tout entière dans ce vers de Pyrrhus? Songez-y bien, il faut désormais que mon cœur, s'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur.
Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, Madame Paola.
Mais la question persiste, Raphaël.
Vous ramate en lisant la troisième partie de l'éthique, c'est l'impression qu'on a, non?
Oui, un petit peu.
Ouais, c'est difficile.
En tout cas, ça persiste, même en finissant, puisque pour les besoins de l'émission, j'ai été jusqu'au bout de cette troisième partie.
Et nous n'irons même pas au bout de l'avant-propos, vous savez quand même. Mais vous avez bien fait d'aller au bout de la troisième partie.
Eh bien, toujours est-il que ça n'éclaire... Bon, l'avant-propos n'est pas la partie la plus difficile, j'ai trouvé.
Non, c'est vrai, puisqu'il faut rappeler quand même à nos auditeurs qu'il existe une éthique, alors non pas souterraine, l'expression est de Deleuze, mais disons une éthique pour les enfants. Pour les enfants que nous sommes quand nous ne faisons pas de philosophie, c'est-à-dire une éthique accessible. Il y a des morceaux de l'éthique, des fragments de l'éthique qui sont accessibles et les avant-propos le sont bien souvent, en particulier l'avant-propos de la troisième partie, de la quatrième et de la cinquième partie. Ces trois avant-propos-là sont parfaitement accessibles à n'importe quel lecteur soucieux ou curieux de découvrir la pensée de Spinoza et de se découvrir lui-même en lisant Spinoza puisque c'est l'effet qu'il produit. Et à cela, il faut ajouter quelques scoli, qu'on appelle des scoli, qui se trouvent après les démonstrations comme des considérations supplémentaires et l'appendice, la fameuse appendice dont on a déjà parlé de la première partie du livre. Mais c'est vrai que la troisième partie, son enchaînement de propositions... comment dire? Dans les parties de l'éthique, la première fait de l'ontologie lourde. Et c'est un délire. C'est un délire savant, c'est un délire pertinent. Mais c'est une aventure intellectuelle insensée dont on ne mesure pas encore tout à fait quand on la lit pour la première fois à quel point elle nous concerne. C'est pas dans quelle mesure ces textes si... abstrait, mathématique, démonstratif et en apparence qui ne parle que de Dieu nous concerne. Et pourtant, on s'en aperçoit assez vite. La deuxième partie est extrêmement difficile pour des raisons objectives. Et la troisième partie a cette difficulté tout à fait particulière. La deuxième partie parle de l'esprit. La troisième partie parle des affects, enfin des affections. C'est-à-dire de nos passions, en réalité. C'est le traité des passions de l'âme de Spinoza. C'est dans cet endroit que Spinoza répond à Descartes, et il faut voir de quelle façon il s'y prend.
Pour la plupart, ceux qui ont écrit des affects et de la façon de vivre des hommes semblent traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature, mais de choses qui sont hors de la nature. On dirait même qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire.
France Culture, Le Gai Savoir.
Raphaël Antoven.
Elle est connue, cette expression de Spinoza, c'est celle qu'on répète souvent. S'il y a une chose en terminale qu'on connaît de Spinoza, c'est pour Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire.
Voilà, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Alors, un élève de terminale qui lirait Spinoza ou qui se contenterait du troisième main pourrait d'ailleurs faire des erreurs. On le trouve régulièrement dans les copies du Bach. L'homme est un empire dans un empire aux yeux de Spinoza, ce qui pour le coup est un contresens objectif maximal. L'expression est sublime, comme un empire dans un empire. Cette tautologie est étonnante et très puissante. Qu'est-ce que ça désigne, l'empire ? Avoir l'empire sur soi, être soi-même, l'empereur de soi-même, hein, c'est avoir le pouvoir sur sa personne. C'est-à-dire que c'est j'ai l'empire sur moi, je ne me laisse pas dicter mes volontés par quelqu'un d'autre que moi. Je suis le maître à bord. Bon. Je suis le maître à bord. Par conséquent, mon destin, ma vie, mes actions, mes activités me sont directement imputables puisque j'en suis responsable, j'en suis l'origine. Et ça, c'est un sentiment courant. C'est un sentiment commun, banal, ordinaire. C'est quelque chose qu'on éprouve au quotidien quand on ne le questionne pas. C'est quelque chose qu'on éprouve quand on ne s'interroge pas, quand on ne prend pas la peine de se demander ce qui nous fait agir comme nous agissons et en même temps nous donne l'illusion que nous agissons librement. Quand on ne fait pas ce questionnement-là, c'est-à-dire quand on n'augmente pas sa liberté en critiquant sa liberté, parce que critiquer sa liberté du point de vue de Spinoza, c'est augmenter sa liberté. Quand on ne fait pas la genèse de l'illusion que l'on a d'avoir un libre arbitre, eh ben on se prend pour un empire dans un empire, on est con. Con comme la vie ordinaire, si vous voulez. Con comme la vie irréfléchie que nous menons au quotidien. Et le paradoxe, c'est que Spinoza fait de cette saisie de l'individu par lui-même, la conscience de soi, qui a priori réhabilite la liberté, le libre arbitre, comme on dit, Spinoza fait de cette fausse vertu ou de cette illusion l'indice, un, de la banalité, deux, au fond, de la sottise, de l'erreur. L'empire désigne une transcendance imaginaire de la volonté. C'est très important, cette phrase, il faut vraiment rester dessus. Une transcendance imaginaire de la volonté, c'est dire, voilà, je m'affranchis de toute détermination, je me commande moi-même, je suis en position de juge ou de censeur de moi-même. L'homme dans la nature, c'est ça que ça veut dire. L'homme dans la nature, c'est-à-dire, par nature, il faut entendre la totalité de ce qui est. L'homme dans la nature est soustrait à la nature. Il y a une exception humaine, et cette exception humaine, elle réside dans le sentiment de l'exception humaine, parce qu'en soi, l'homme n'a rien d'exceptionnel. Voilà. Donc, l'exception humaine réside dans le sentiment que l'homme est exceptionnel, ce qui est une folie. Ce qui est une folie qui a débouché sur l'intention cartésienne de se rendre comme maître et possesseur de la nature, dont les méfaits sont absolument incalculables encore maintenant. Puisque le moindre livre aujourd'hui qui prétend défendre la nature ou plaider pour une écologie responsable ou bien lutter contre les gaz à effet de serre, se méfier d'une industrialisation outrancière, parler de développement durable, etc., le moindre livre, si son auteur a quelques lettres, le moindre livre se donnera pour règle de rompre avec l'intention cartésienne de se rendre comme maître et possesseur de la nature au profit de l'ambition spinoziste davantage de considérer que notre libre arbitre n'est que l'ignorance des causes réelles qui nous font agir. Je veux dire, les enjeux sont considérables et cette querelle qui remonte au XVIIe siècle a des échos aujourd'hui massifs.
Donc Descartes est nommé, mais c'est lorsqu'il dit un peu plus loin, à la vérité, le très célèbre Descartes, bien qu'il ait admis le pouvoir absolu de l'âme sur ses actions, a tenté, je le sais, d'expliquer les affections humaines. Et bref, il dit, mais à mon avis, il n'a rien montré que la pénétration de son grand esprit. Mais après, il n'en est plus fait cas dans la suite de
l'éthique 3. Il revient dessus dans l'avant-propos de la cinquième partie de l'éthique. Et on verra comment ça marche. Hein. En fait, ce qu'il critique chez Descartes, c'est le sentiment que le corps et l'esprit ne sont pas de même nature. Et on verra comment ça fonctionne. C'est vrai que le Descartes est la cible favorite de Spinoza.
Et pourtant, la méthode est très similaire. Oui, en tout cas, dans l'écriture, dans la méthode.
Mais Descartes, c'est le solfège de tous les philosophes du XVIIe siècle, Paola. Et même au-delà. Et même des philosophes des Lumières. Descartes, c'est le solfège, c'est l'alphabet, si vous voulez. Il faut commencer par lui. C'est celui qui a légué à sa postérité le soin de le contredire. Il faut commencer par lui. C'est l'adolescence des grandes pensées qui le suivent, en fait, Descartes. C'est le premier, c'est celui qui fournit le lexique, l'alphabet et les erreurs, dont il faut se sortir, s'affranchir pour, non pas progresser dans la pensée, mais tout simplement résoudre les problèmes insolubles qu'il a légués à sa postérité. Par exemple, on verra, le fait que, pour Descartes, le corps et l'esprit agissent l'un sur l'autre. Et pour agir l'un sur l'autre, ils ont besoin d'être différents en nature, parce que s'ils n'étaient pas différents, ils ne pourraient pas agir l'un sur l'autre. Seulement, s'ils sont différents en nature, ils ne peuvent pas agir l'un sur l'autre. Donc la condition de possibilité d'une action du corps sur l'esprit, ou de l'esprit sur le corps plutôt, est une condition d'impossibilité aussi. C'est ce genre de galère que Descartes lègue à sa postérité, qu'il appartient à ses successeurs, et Spinoza le premier, de régler. Et Spinoza règle ses comptes avec Descartes de façon, à mon sens, convaincante, mais ça c'est une autre histoire. Mais au-delà de la querelle Spinoza-Descartes, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est un sentiment, le libre arbitre. C'est un sentiment. J'ai le sentiment d'être l'origine de mes actes. C'est un sentiment. Et c'est à la genèse d'un tel sentiment que Spinoza s'en prend. D'où vient cette illusion ? Or, d'où vient cette illusion ? Elle vient du sentiment d'exister et surtout du fait d'en être conscient. Au fond, dans le sentiment que ce monde ne suffit pas et qu'il existe au-dessus de lui ou à côté, comme une vérité cachée, le monde parallèle de mes décisions. L'univers conforme à la supériorité ontologique que je présume en moi. Spinoza considère qu'il n'y a qu'un seul monde. Il ne peut y avoir qu'un seul monde. Pour croire qu'il y a deux mondes, il faut soi-même se vivre comme séparé de soi-même, au fond. Et ce que Spinoza explique ici, ce dont il fait la généalogie, c'est le sentiment d'être l'origine de ses actes, qu'on retrouve par exemple, à l'échelle politique, dans le fantasme de la souveraineté. Vous savez, l'idéologie souverainiste, ce qu'on appelle le souverainisme. Qu'est-ce que c'est, le souverainisme ? Le souverainisme, en termes politiques, dans un univers mondialisé, c'est une servitude. C'est une servitude pour laquelle certains se battent comme s'il s'agissait de leur salut ou d'une liberté retrouvée. Spinoza est le premier à permettre de comprendre, à donner à comprendre le fait que lutter contre, ou plus exactement se prendre soi-même pour le sentiment qu'on a de soi, le sentiment de sa propre liberté, ériger son libre arbitre en unique arbitre justement de l'existence, considérer que son libre arbitre nous affranchit de l'ordre des déterminations à la façon dont les frontières d'un État nous affranchiraient ou seraient en mesure de nous préserver des méfaits de la mondialisation, considérer cela, c'est être esclave deux fois, c'est être le pantin deux fois de sa propre vanité. Et Spinoza aide à guérir cela, comme il aide à guérir du sentiment d'être une origine radicale, un commencement radical. Oui, Paola.
Mais alors, si ce n'est pas par le biais du libre arbitre et des décisions, comment est-ce qu'on parvient à se débarrasser des passions tristes, celles qui nous font souffrir et qui, comme il est dit dans la troisième partie, diminuent notre puissance d'agir ?
Eh bien, pas en les combattant. Voilà, pas en les combattant. On ne se débarrasse pas des passions tristes en leur faisant la guerre. Parce qu'alors, pardon, on rajoute la tristesse à la tristesse. Voilà. Ça n'est pas en se bagarrant, ça n'est pas par la haine, ça n'est pas par l'invective, ça n'est pas par la tristesse qu'on oppose à notre propre tristesse qu'on va sortir de la tristesse. Faudrait être fou pour ça. Moins par moins, qu'est-ce que vous voulez ? Ici, ça fait pas plus. Voilà. On ne se débarrasse pas des passions tristes. Pour en revenir encore une fois au terrain de la mondialisation, au terrain politique. Ce qu'on appelle la démondialisation est une absurdité. Pourquoi ? Parce que pour qu'elle marche, il faudrait la mondialiser. La démondialisation n'est possible qu'à l'échelle mondiale. Si un État tout seul décide de s'affranchir de la mondialisation, immédiatement les autres lui fermeront les frontières comme il a fermé les siennes, et l'État en question s'étiole. La démondialisation, vécue toute seule, pensée toute seule, est absurde. Elle n'est possible que si elle est mondialisée. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que ça n'est pas en combattant la mondialisation qu'on la comprend. C'est en comprenant la mondialisation qu'on peut la combattre. Et c'est exactement cette démarche à laquelle Spinoza se livre dans la troisième partie de l'éthique.
Tous les rapaces de la mondialisation sont si voraces qu'on y laissera nos caleçons. Leur seul langage en réponse à nos questions, c'est bien dommage, c'est celui de la répression.
Ça n'est pas en combattant les mauvaises passions qui nous animent, genre j'ai l'appât de l'or, j'ai l'appât du gain, ou bien je suis pétri de stupre et je peux pas m'en empêcher, ou je suis nymphomane, peu importe. Je suis agi par quelque chose dont je voudrais un peu me débarrasser, ou je suis fumeur, ou je suis drogué, je suis mu, déterminé par quelque chose qui entrave ma liberté. Comment je me débarrasse de ça ? L'erreur est de croire que c'est affaire de volonté. Celui qui dit « c'est la volonté qui vous permet d'arrêter de fumer » par exemple, celui-là se prend pour un empire dans un empire. Celui qui dit que l'arrêt complet de la cigarette, alors parce que celui qui arrête à coup de volonté, se vivra toujours comme un fumeur qui a suspendu le fait de fumer. Il faut, pour véritablement arrêter de fumer, c'est la grande découverte d'Alan Carr, et c'est la raison pour laquelle le livre sur sa méthode pour arrêter de fumer a été vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. L'arrêt de la tabagie ne repose pas tant sur la volonté que sur une réforme du désir. Il faut que le désir ne nous y porte plus, que le désir de la cigarette soit lui-même caduque. Et c'est à ce travail-là que Spinoza contribue. C'est-à-dire que Spinoza n'est pas là pour étayer une volonté qui montrerait ses muscles face à une adversité qui est plus forte qu'elle. Non, Spinoza est là pour éduquer notre désir de façon à ce que nous ayons le désir de ce qui est bon pour nous.
Oui. Je vais faire du Descartes un peu de terminal, hein, excusez-moi, mais quand on dit il vaut mieux changer...
Vous savez, Descartes est aussi un philosophe pour classe terminale.
Oui, mais je veux dire, ça, à gros traits, c'est mes souvenirs, il vaut mieux changer l'ordre de ses désirs que l'ordre du monde, on est dans la même idée.
Alors, vous avez absolument raison, il faut ici pour nos auditeurs rappeler très rapidement ce à quoi vous faites référence. Mieux vaut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, c'est la deuxième, je ne sais plus, j'ai un doute là à l'instant, maxime de prudence qu'il développe quand il élabore sa morale provisoire, sa morale par provision, dans la troisième partie du discours de la méthode. Et on a là un Descartes assez stoïcien, non pas spinoziste, mais stoïcien. Stoïcien dans la mesure où il dit... En attendant, qu'est-ce que c'est que la morale par provision ? Bah, la morale par provision, c'est le truc avec lequel il faut bien vivre en attendant d'avoir trouvé la vérité. Donc il faut s'arranger, donc il faut respecter les coutumes des pays en place, changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Bref, toute une série de recommandations, marcher tout droit quand on est perdu en forêt, enfin, toute une série de recommandations qui sont de tout à fait bon sens, mais qui sont présentées par son auteur, par son promoteur, comme des décisions suspensives, enfin des décisions provisoires, voilà, c'est en attendant mieux. C'est le gouvernement provisoire de soi-même en attendant l'arrivée d'une république nouvelle, si vous voulez. Bon, évidemment, le problème, c'est que comme nos vies s'achèvent, elles sont provisoires elles-mêmes. De sorte qu'une morale par provision, c'est pas une morale provisoire, c'est la morale de toute la vie. Puisque la vie elle-même, si on était éternel, si on était aussi éternel que notre esprit peut l'être, d'un certain point de vue, si nous étions éternels, la morale par provision serait une morale provisoire. Mais comme nous ne sommes pas éternels, comme nos vies elles-mêmes sont provisoires, il n'y a pas de morale plus adaptée à nos vies que la morale par provision. Bon. Donc le Descartes auquel vous faites référence dans la troisième partie est un Descartes qui revient sur lui-même dans la cinquième partie du discours de la méthode quand il dit « faut se rendre comme maître et possesseur de la nature ». C'est pas le même. Ben, si, c'est le même. Mais il ne dit pas la même chose. Si vous demandez par exemple à Alain Badiou, grand cartésien, très féru de Descartes, quel est son Descartes favori, entre le Descartes de la troisième partie et le Descartes de la cinquième partie, il dira évidemment le Descartes qui veut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Badiou déteste les écolos pour cette raison-là. C'est-à-dire par l'humilité qu'il témoigne à l'endroit de l'ordre de la nature, alors que l'homme, justement, est en mesure de modifier, de corriger l'ordre naturel. Vous avez un Descartes qui peut être brandi, c'est comme Rousseau, Descartes. Rousseau peut être brandi par les révolutionnaires, parce qu'il a montré que l'homme était perfectible, qu'il pouvait s'améliorer, qu'il avait une histoire, etc., etc. Mais il peut être brandi par les romantiques et les contre-révolutionnaires, parce qu'il a montré que cette faculté proprement humaine était aussi ce qui faisait de lui un type méchant et idiot, potentiellement. Descartes peut être brandi par ceux qui disent « Soyez humble, faites attention, ne prenez pas de risques, changez vos désirs plutôt que l'ordre du monde. Comme dirait Gerfagnon, ne soufflez pas plus haut que votre bouche. » Et la cinquième partie, qui est de dire « Rendez-vous comme maître et possesseur de la nature. Vous pouvez le faire, vous avez la possibilité de vous rendre comme maître et possesseur de la nature puisque la machine que vous êtes est informée, à la différence des machines animales ou des machines techniques, est informée par une âme qui se trouve ici malgré tout, comme non pas comme un pilote en son navire, mais enfin au poste de commande. Bon. Et cette potentialité, cette possibilité dont vous disposez fait de vous un homme libre et un homme susceptible d'influer sur la nature. » Ce deuxième Descartes s'oppose au premier. Et celui que vous invoquez là, c'est le Descartes de la troisième partie, il est plus, non pas spinoziste, il est stoïcien. La référence de Descartes, elle est stoïcienne. On a beaucoup réduit Spinoza au stoïcisme. C'est un contresens absolu. C'est en général les Kantiens. Les Kantiens décident que Spinoza est stoïcien parce que ça les arrange. Ils font peu de cas du fait qu'il y a un libre arbitre chez les stoïciens et que les stoïciens font l'éloge du suicide, ce qui pour Spinoza est une servitude au carré. Donc laissons de côté ces réductions absurdes et ces caricatures d'histoire des idées pour en revenir au combat lui-même, au combat de Descartes et de Spinoza. Le Descartes auquel Spinoza s'en prend, c'est celui qui se vit comme l'origine de ses actes. C'est celui qui a le sentiment d'être un commencement, mais un commencement radical, ce qui est absurde. Le monde a déjà commencé quand on arrive, et d'une certaine façon, nous avons déjà commencé quand nous arrivons, puisque nous sommes précédés par nos propres causes. Donc, il n'y a pas de sens à se vivre soi-même comme un commencement radical. Le Descartes que Spinoza combat, c'est celui dont l'intuition du libre-arbitre, le sentiment d'être l'origine de ses actes, donne le jour par exportation de lui-même au monde entier, par sentiment d'être, au fond, d'être le centre du monde aux yeux de Spinoza, par le fait de prendre son cas pour des généralités, c'est le Descartes qui donne le jour à une idée de la providence qui serait elle-même le libre arbitre étendu à l'univers tout entier. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? C'est moi me prenant pour Dieu. Dieu, c'est moi qui me prends pour Dieu. Dieu, le Dieu transcendant, le Dieu volontaire, le Dieu de libre arbitre, voire le Dieu jaloux, ou le Dieu pas content, ou le Dieu rédempteur, ou le Dieu, par exemple, qui s'offusquerait de caricatures de son prophète. Tiens, voilà. Ce Dieu-là est un Dieu de comédie, c'est un Dieu de pignouf, c'est-à-dire c'est le Dieu d'un individu qui se prend lui-même pour le centre du monde et qui confond le monde avec le rapport que sa propre volonté entretient à lui. Et Spinoza est celui qui s'en prend à cette genèse de l'illusion divine à partir de l'idée du libre arbitre. Je me sens libre, donc je considère que Dieu est au principe du monde et qu'il y a un Dieu volontaire au principe du monde. Spinoza déconstruit tout ça.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu à la méthode de Spinoza, parce que l'avant-propos se termine d'une façon assez curieuse et qui peut paraître suspecte aux yeux de lecteurs, enfin en tout cas dans mon cas, voilà pour tout dire, lorsqu'il dit « Je traiterai donc de la nature des affections et de leur force, du pouvoir de l'âme sur elles, suivant la même méthode que dans les parties précédentes de Dieu et de l'âme, et je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il était question de ligne, de surface et de solide. »
Ouais, c'est super ça. C'est inhumain, n'est-ce pas ? Ça sonne inhumain. Après, on reviendra sur le début, Paola. Je veux bien qu'on commence par la fin, mais promettez-moi qu'on revient sur le début de l'avant-propos ensuite, parce qu'il y a tant de choses à en dire. Mais allons d'emblée à ce qui pose problème et ce qui a rendu justement Spinoza antipathique. C'est vrai qu'un philosophe qui dit qu'on est l'origine de ses actes, il est plus sympathique qu'un philosophe qui dit que je considérerais les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surface et de solides.
C'est un peu désincarné.
C'est un peu désincarné, on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire ? N'est-ce pas l'aveu d'un penseur insensible, comme on dit ? Comment soumettre ? En gros, ce qu'on peut dire quand on lit cette phrase, on dit mais Spinoza est un connard. C'est un géomètre sinistre. C'est comment soumettre l'ordre irrationnel des passions humaines, où peut-être ma liberté trouve à s'exprimer ou à s'épanouir, à la géométrie la plus froide. Comment cet homme-là, pire, est-ce qu'en disant cela, et ça ce sont des contresens majeurs qu'on fait sur Spinoza, est-ce qu'en disant cela, Spinoza n'a pas tendance à tenir l'homme pour une science exacte, et donc par là même à donner le jour par exemple aux marxistes qui, considérant que l'histoire est une science exacte, disent à peu près n'importe quoi sur le développement de l'homme ou sur la constitution des sociétés. Est-ce que Spinoza n'est pas l'ancêtre de cette illusion cardinale qui consiste à traiter les sciences molles, histoire, économie, etc., comme si c'était des sciences exactes et de leurs méfaits ? Est-ce que Spinoza n'est pas à l'origine de ça ? Qu'en est-il de la liberté, du hasard, de tous ces gestes qui défient la prédiction ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'irréaliste, de totalitaire chez Spinoza ?
Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affirmé. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrancir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants.
Vous savez, Raphaël, que j'ai vu pour les besoins de l'émission en préparant que Racine et Spinoza, dans la rédaction de leurs pièces et de leurs œuvres, sont vraiment contemporains.
À 10 ans près,
mais l'éthique est écrite dans les années 60, 1660,
oui.
et Phèdre, c'est 1667.
Alors, l'éthique est parue à la mort de Spinoza, c'est-à-dire en 77, Mais effectivement, il l'avait probablement fini plus tôt. Donc oui, ils sont en effet contemporains. Mais pourquoi
mais oui, si
pourquoi
voulais,
Phèdre ici
si
pourquoi,
voulais,
pourquoi cet extrait?
Oui, si je voulais qu'on entende un extrait de Phèdre, c'était parce qu'il y a quelque chose, et j'y faisais référence dans mon chapeau, il y a quelque chose qui m'a embêtée au départ dans la lecture de Spinoza. C'est ce besoin, et on le voit dès l'avant-propos, de parler des passions de façon désincarnée. Par exemple, la dernière phrase, je suis désolée, je brusque un peu les choses, je vais directement à la dernière phrase de l'avant-propos.
Allez-y, tout est dans tout dans Spinoza, donc on peut entrer par la dernière phrase de l'avant-propos. Allez-y, pardon.
Et ça parle de méthode, c'est lorsqu'il dit « Je traiterai donc de la nature des affections et de leur force, du pouvoir de l'âme sur elles, suivant la même méthode que dans les parties précédentes de Dieu et de l'âme. Et je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surfaces et de solides. »
Oui.
C'est à l'opposé de la philosophie des passions qu'on trouve chez Racine, par exemple. Je ne sais pas si je peux utiliser, mais de l'expression des passions.
Oui, mais pas au sens où vous le dites.
Parce que
c'est en apparence, le type dit, enfin Spinoza, je considérerais les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surface et de solides. Alors, vous opposez ça à Racine, je ne veux pas lire dans vos pensées Paola, mais je crois le faire ici. Vous opposez ça à Racine dans la mesure où Spinoza est froid, et Racine est plus chaud, si j'ose dire. Phèdre est plus, comment dire,
exalté.
Est plus exalté qu'un homme qui dit « Je considérerais les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surface et de solide, si vous voulez. »
Mais
c'est un peu la différence qu'il y a entre Mélenchon et Balladur, si vous voulez. C'est pas du tout la même école, quoi. C'est ça que vous entendez ou pas?
Oui, mais c'est ça, c'est en aplanissant les passions comme ça, est-ce qu'on les donne mieux à voir et à comprendre qu'en les montrant sur scène de la façon dont elles surgissent dans la vie, de façon passionnée, dans le langage ou de la tristesse majestueuse de Bérénice ou de la foudre de Phèdre.
C'est pas si éloigné ça pour le coup, parce que le traité des passions de l'âme de Spinoza, c'est-à-dire la troisième partie de l'éthique, montre les passions, les décrit, sauf qu'elle les géométrise. Cette troisième partie, les géométrise. Là où Racine s'oppose à Spinoza, c'est quand Phèdre dit
« Je le vis. Je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrancir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. »
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
On pourrait croire qu'on est chez Spinoza dans la mesure où voilà quelqu'un qui dit « Je ne suis pas l'origine de mes passions. » C'est pas moi l'origine de mes passions, c'est Vénus. C'est Vénus qui m'a mis ça dans la tête. C'est pas ma faute, je ne suis pas l'origine de mes passions. Or c'est vrai qu'il y a chez Spinoza l'idée que, en droit, toute décision, le libre arbitre étant une illusion, toute décision peut en droit être déconstruite, décomposée ou atténuée par les circonstances qu'il a, enfin disons, peut-être est soluble dans les causes qui la déterminent et par là même judiciairement atténuée par ces causes qu'on appellerait alors des circonstances atténuantes, justement. Mais là où c'est tout à fait différent, c'est qu'il y a une téléologie de l'amour dans Phèdre. Vénus, ben elle a décidé de s'en prendre à Phèdre, dont la famille est un peu compliquée. Donc Vénus a décidé de s'en prendre à Phèdre, c'est une décision divine. Et de ce point de vue, pour les besoins de la tragédie, c'est l'évidence, Phèdre, invoque Vénus à l'appui d'un mal face auquel elle se sent en situation d'impuissance. Elle n'a pas les moyens de lutter contre ce mal. Elle n'a pas les moyens de lutter contre ce mal parce que ce mal est quasiment théologique. C'est un mal céleste. C'est une damnation. Elle est damnée. Alors, chez Spinoza, c'est un peu différent. Certes, je ne suis pas l'origine de mes actes, mais je suis déterminé à penser... Enfin, je suis déterminé à penser comme je le pense, mais ce n'est pas quelqu'un qui me détermine à penser comme je le pense, si vous voulez. Je ne suis pas la victime d'une intention divine. Et j'en reviens à l'image de la mondialisation. Toujours la même histoire. Qu'est-ce qu'on fait face à la mondialisation? On est tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un mécanisme. Bien. Seulement certains considèrent que ce mécanisme a été ourdi par une communauté de puissants. Alors si on est très antisémite, on dira c'est les 200 familles juives qui dominent le monde ou qui veulent avoir le contrôle, etc. Si on est juste paranoïaque, on considérera que ce sont les riches qui veulent absolument exploiter les pauvres et que la mondialisation est l'effet de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais en tout état de cause, on peut avoir de la mondialisation la lecture que Phèdre a de son propre désarroi, à savoir « je reconnus Vénus et ses feux redoutables ». La mondialisation, eh ben, y a des causes, et ces causes, ce sont des humains. D'un point de vue spinoziste, la mondialisation, c'est un mécanisme aussi, mais c'est un mécanisme sans tête. C'est un mécanisme qui n'est pas gouverné par une téléologie, par une intention. C'est un mécanisme aveugle. Celui qui croit être au principe de ce mécanisme est lui-même un pantin qui s'ignore, si vous voulez. Donc, c'est ça, Spinoza. Et c'est pour ça que Spinoza est une lecture difficile. Spinoza n'est pas difficile parce que il écrit de façon géométrique, ou il jargonne, ou son texte est difficile. Oui, son texte est difficile. Mais Spinoza est d'abord difficile par ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous apprendre. Alors, j'en reviens à la dernière phrase, Paola. Je considérerais les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surfaces et de solides. En toute bonne foi, un lecteur peut se dire, peut-être était-ce votre sentiment d'ailleurs, que cet homme-là est un penseur insensible. Que c'est un homme qui entreprend de soumettre l'ordre irrationnel des passions humaines, où la liberté trouve à s'épanouir, à prospérer, à une géométrie hyper rigide. Et il y a quelque chose d'insupportable là-dedans. C'est celui qui tient l'homme pour une science exacte, à la façon des marxistes qui, faisant de l'histoire une science exacte plus tard, en viennent à, comment dire, enfin, les méfaits d'une théorie qui interprète les sciences molles ou les sciences humaines comme autant de sciences exactes sont bien connus, puisque au fond, c'est une théorie qui fait peu de cas de l'homme lui-même, c'est-à-dire de l'irrationnel contenu dans l'homme. Est-ce que Spinoza est au principe de ce genre de décision? Est-ce que Spinoza est à l'origine de ce genre d'ambition? Est-ce qu'il y a quelque chose d'irréaliste, de désincarné et en même temps de totalitaire dans le fait spinoziste de réduire nos actions à des lois implacables, à la science la plus abstraite? Et en retour, on pourrait dire, ben à l'inverse, c'est travailler à l'humanité de l'homme que de l'affranchir de ces règles géométriques qui s'appliquent uniquement aux objets inanimés. C'est travailler à la singularité de l'homme. L'homme est bien le seul parmi les vivants à disposer d'un libre arbitre, d'une faculté de refus qui lui permet de s'opposer à l'intolérable, de s'extraire d'un monde animal, de boire sans soif, de résister à l'ennemi, de faire l'amour non pas pour se reproduire mais parce qu'il en a envie. Bref, l'homme est un îlot de liberté dans l'empire de la nécessité, et Spinoza semble ici contredire ce principe, contredire ce point de vue. C'est tout à fait faux. C'est une lecture, à mon avis, tout à fait inexacte. Et pour une raison, je veux ici m'en expliquer si vous m'en donnez le temps. C'est important, je crois. Ceux qui disent que l'homme dispose d'une faculté de refus, que l'homme est un empire dans un empire, on en revient à la première phrase. Ceux qui présentent l'homme comme un empire dans un empire, comme une faculté souveraine, comme une sorte de souverainisme incarné, un individu qui, fermant ses frontières, serait imperméable aux nécessités, aux déterminations du monde et poserait là comme un acte sa liberté souveraine. Ceux qui le prétendent croient, dit Spinoza, et on verra ce qu'il veut dire par là, que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même sa détermination. Le résultat du fait de penser que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, et on verra comment ça marche, c'est que, quand on est impuissant face au monde, quand le monde est plus fort que soi, on va chercher la cause de l'impuissance humaine non dans la nature, non dans la puissance commune de la nature, mais dans un vice de la nature humaine. Un truc soudain, on invente ad hoc, opportunément, un vice de la nature humaine qui empêche la nature humaine d'exercer la souveraineté de l'empire dans un empire.
Par exemple ?
J'ai une volonté, je suis soustrait à toutes les déterminations, etc., mais j'arrive pas à arrêter de fumer. Vous n'arrivez pas à arrêter de fumer, mais comment ça se fait? Mais pourquoi? Pourquoi n'arrivez-vous pas à arrêter de fumer? Vous n'arrivez pas à arrêter de fumer parce que vous êtes vicieux, monsieur. D'un point de vue spinoziste, j'arrive pas à arrêter de fumer parce que je suis dépendant à la nicotine. Oui, mais on donnera, du point de vue moral, un attribut moral, si vous voulez, où on interprétera comme un défaut ce qui relève, ou comme un vice, ce qui relève tout simplement d'une impuissance. La méthode qui consiste à présenter l'homme comme un empire dans un empire débouche sur le sentiment que quand l'homme est incapable de faire ce qu'il veut, alors qu'il est toute volonté, à en croire les cartésiens, quand l'homme est incapable de faire ce qu'il veut, c'est que sa volonté, elle est lestée par un mauvais sentiment, par quelque chose de pas bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du point de vue de Spinoza, celui qui vante le libre arbitre. Celui qui pense que les passions peuvent être soumises à la raison. Celui qui vante l'exception humaine au sein du règne naturel. Eh bien, il s'expose dans le meilleur des cas, ou dans le cas où une volonté ne suffit pas à accomplir ce que l'on souhaite, il s'expose à jeter l'anathème sur des comportements qu'il ne peut pas s'expliquer. Il s'expose à dire, ça c'est pas bien, ça c'est mal, tu n'as pas assez de volonté, c'est pas bien. On juge celui qu'on a renoncé à comprendre. Présenter l'homme comme un empire dans un empire, c'est se donner les moyens de le juger, mais se priver des moyens de le comprendre. On va jusqu'à, d'ailleurs, si le type en question est un monstre, un assassin, un tueur d'enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va l'exclure de l'humanité. Parce que celui-là, ses passions sans maîtrise, le rendent déraisonnable ou dangereux, eh bien, on va l'exclure de l'humanité, on va le traiter de monstre, à la façon des nazis. Souvenez de la discussion qu'on avait eue à propos des cerfs-volants de Romain Gary. Le problème des nazis, enseigne Romain Gary.
C'est pas qu'ils sont inhumains, c'est qu'ils sont humains, c'est
précisément.
Ça
précisément. Or, c'est exactement ce que Spinoza permet de penser avec sa géométrie. C'est-à-dire que, loin que le traitement géométrique des passions nous éloigne de l'humanité, en géométrisant ce qui relève de l'irrationnel ou du spécifiquement humain, le traitement géométrique des passions donne à quelqu'un la possibilité de n'absolutiser aucune passion. De ne séparer aucune passion des déterminations naturelles, de chercher dans la nature les déterminations qui nous portent à éprouver telle ou telle passion, bref, à comprendre. Et de comprendre, c'est ça l'enjeu. Et celui qui géométrise les passions de cette façon-là ne dépose pas tant sur la chaleur racinienne de nos passions, le filtre froid, le monstre froid d'un appareil géométrique, qu'il ne se donne les moyens de considérer que toute passion, y compris la plus monstrueuse, relève de l'humanité. Donc Spinoza n'est pas déshumanisant quand il géométrise les passions. Au contraire, il donne les moyens de penser que toute passion peut faire l'objet d'une réflexion, et non d'un anathème. Il se donne les moyens de n'exclure personne de l'humanité, y compris le monstre. Or, ça c'est très important parce que si vous excluez le monstre de l'humanité, voyez, les défenseurs de l'exception humaine, ceux qui considèrent que l'homme est un empire dans un empire, les défenseurs de l'exception humaine au sein du règne naturel, qu'est-ce qu'ils inventent quand ils sont face à un monstre, un tueur d'enfants, un nazi, quand ils sont face à ça, qu'est-ce qu'ils inventent? Eh bien, ils inventent l'exception d'inhumanité. Les inventeurs de l'exception humaine ont besoin d'inventer l'exception d'inhumanité pour justifier un comportement que l'idée qu'ils se font d'humanité ne peut pas comprendre, ne peut pas inclure. Alors que Spinoza, pour qu'il n'y a pas d'exception humaine, envisage tout, y compris la monstruosité, sans l'exclure de l'humanité. Et ça, c'est très important parce que, en termes d'opinion publique, par exemple, qu'est-ce que ça donne, ça? Ben, ça donne les boucs émissaires. Les boucs émissaires. Quand tout va mal, quelque part, dans une société, quand tout va mal dans une société, quand c'est la dèche, quand c'est la crise, quand ça va plus, on se cherche des coupables. On se cherche des coupables. Alors, si on est à Weimar dans les années 30, on dira « les coupables, ce sont les Juifs ». Si on est en France aujourd'hui, on dira « les coupables, ce sont François Hollande ». Bon, peu importe le nom du coupable, ce sont les politiques, tous les mêmes. L'UMPS, par exemple, vous voyez, processus de transformation du désir de bouc émissaire. Ils sont tous coupables, comme dirait Mélenchon, qu'ils s'en aillent tous. Voyez, ou comme dit Marine Le Pen, UMPS, c'est la même chose, c'est la démagogie. Le propre de la démagogie, c'est que face à des phénomènes qu'elle ne peut pas comprendre, se faisant l'interprète de ceux qui subissent ces phénomènes sans les comprendre, fournit non pas une solution à ceux qui subissent les phénomènes, mais fournit, mieux qu'une solution, un coupable. Et c'est exactement ce processus que Spinoza déconstruit dans l'éthique. Il n'y a pas un lecteur assidu, acharné de l'éthique de Spinoza qui puisse voter Front National. C'est impossible. Je dirais, c'est un remède qui prend du temps. Mais je mets au défi quiconque ayant lu et intégré la logique de l'éthique de voter Front National, c'est-à-dire de voter, ou même pour le Front de Gauche, c'est-à-dire de voter pour la tentation de remplacer un mécanisme par l'érection d'un bouc émissaire commodément désigné comme la source de tous les maux. Et pour terminer là-dessus, je dirais que, juste ce point, parce que c'est quand même important, c'est, si vous voulez, contrairement au vœu pieux d'une exception humaine, qui culmine dans l'exclusion des renégats, du monstre, du salaud, du gouvernant, du juif, du bouc émissaire, si vous voulez, contrairement à ce vœu pieux d'une exception humaine dans la nature, qui culmine dans l'exclusion de ceux qui ne sont pas conformes à l'idée que l'humanité se fait d'elle-même, eh ben, La réduction géométrique de nos passions façon Spinoza permet paradoxalement d'avoir du cœur, c'est-à-dire d'être généreux. Vous avez d'un côté ceux qui constatent l'impuissance de l'esprit à gouverner le corps et qui donc bannissent de l'humanité les criminels. Et puis vous avez ceux, les spinozistes, qui grâce à la géométrie, ou à cause d'elle peut-être, pensent par-delà bien et mal et mettent en évidence l'humanité du monstre lui-même. Hannah Arendt n'a pas d'autre intuition que celle-là devant Eichmann. Le problème d'Eichmann pour Hannah Arendt, c'est qu'il n'a pas la gueule de l'emploi. C'est qu'il n'a pas une tête de monstre. Il n'a pas la tête qu'on voudrait qu'il ait. C'est pas un vampire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas un vampire, il va pas sucer le sang des enfants. Non, c'est un petit gris. C'est un fonctionnaire. C'est un homme qui envoie des gens à la mort comme on signe un... D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait d'ailleurs. Comme on remplit un papier administratif. Le problème d'Eichmann, c'est son humanité. C'est pas son inhumanité. Le problème d'Eichmann, c'est sa banalité. C'est son ordinarité. Et ça, c'est Spinoza qui permet de le penser. Spinoza permet de penser la banalité du mal. Donc, voyez, puisque c'est la dernière phrase, tout ça est contenu dans la dernière phrase de l'éthique, enfin de l'avant-propos de la troisième partie. Je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surface et de solide. Non seulement ça n'est pas géométriser les passions, mais derrière cette géométrie des passions, apparemment froide, il y a l'ambition, qui est au contraire de la froideur, aux antipodes de la froideur, de considérer que toute action humaine fait l'objet d'une compréhension avant de faire l'objet d'un jugement.
Nous-mêmes, on ne respecte pas, dans la façon dont on procède de l'émission, la géométrie et l'ordre imposé par le livre, puisqu'on se balade un petit peu dans l'avant-propos.
Oui, mais on a le droit dans l'avant-propos. Parce que, disons que dans l'éthique, effectivement, les propositions s'enchaînent l'une l'autre, donc on a le sentiment d'une marche vers l'avant. Mais comme l'éthique est également truffée de textes qui se suffisent à eux-mêmes et qui abjurent, enfin... suspendent provisoirement, des empires dans l'empire, en tout cas des textes qui suspendent provisoirement le diktat géométrique, ceux-là on a le droit de les lire dans tous les sens. Hein.
Alors ça, allons-y. Puisque je voulais, c'est moi-même qui étais partie à la toute fin de l'avant-propos, et je voulais revenir à une phrase qui est au début, lorsque Spinoza écrit, il croit en effet, et c'est ceux qui ont écrit sur les affections et dont il parle au tout début, il continue en disant, il croit en effet que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il a sur ses propres actions un pouvoir absolu, et ne tire que de lui-même sa détermination. Alors quel est le lien entre ces quatre illusions de l'homme qui pense avoir le libre arbitre et qui sont reliées ici dans cette phrase?
Si vous voulez, ceux qui tiennent l'homme pour un empire dans un empire croient que l'homme perturbe l'ordre de la nature. Enfin, on n'a pas la même traduction. Vous avez la traduction Apune en Garnier Flammarion et je travaille sur la traduction Potra. Mon maître Bernard Potra, professeur de Spinoza, professeur de spinozisme, qui a traduit l'éthique au seuil et qui le présente d'ailleurs aux électeurs, en édition bilingue, ce qui est toujours intéressant. Dans la version que j'ai, ceux qui prennent l'homme pour un empire dans un empire ou ceux qui croient que l'homme est un empire dans un empire ont en partage le sentiment que 1. L'homme perturbe l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, numéro 1. 2. L'homme a sur ses actions une absolue puissance. Bon. Et numéro 3, l'homme n'est déterminé par ailleurs que par lui-même. On a une vraie psychologie ici. Une vraie psychologie. Mais c'est une psychologie spinoziste. C'est pas une psychologie au sens de psychologie magazine. C'est-à-dire que c'est pas la psychologie au sens... ça n'est pas le détail d'une âme. Ça n'est pas... même pas les détours d'une pensée, d'ailleurs. C'est une logique. C'est une logique inconsciente, souterraine. Et c'est une logique qui nous agit, que nous subissons, tant que nous n'en avons pas la connaissance. La psychologie de Spinoza, c'est un enchaînement, une concaténation des idées, nécessairement soudées entre elles. C'est en cela que Spinoza est le maître à penser de ceux qui écrivent des romans. Parce que écrire un roman ou écrire un essai, qu'on écrive un roman ou un essai, c'est toujours des moments où on note des phrases disparates et dont la signification trouve sa place après coup, si vous voulez. Spinoza est celui qui montre les logiques à l'œuvre derrière des choses apparemment différentes, des passions apparemment différentes. Alors là, faut reprendre les choses. Il dit, alors, quelles sont ces trois illusions ? 1. Croire que l'homme perturbe l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Paola ? Perturber l'ordre de la nature plutôt qu'on ne le suit.
C'est en être maître, d'une certaine façon, c'est pouvoir agir sur lui, je sais.
Alors, ça peut être pouvoir agir sur lui, c'est surtout ne pas lui être soumis. Comme toujours, on prend on confond la liberté avec le désir d'être libre, au fond. On confond la liberté avec le sentiment même d'être libre. C'est l'idée que l'homme, au sein des déterminations naturelles, il y a une sorte d'électron libre, que nos auditeurs physiciens me pardonnent d'employer cette expression qui, paraît-il, est absurde. L'homme est une sorte d'électron libre dans des déterminations naturelles. Voilà, c'est l'idée qu'il existe une sorte d'exception humaine dans la trame du déterminisme. On l'a vu, hein. Je suis plus fort que le destin. En tout cas, si je ne suis pas plus fort que le destin, puisque Vénus et ses feux redoutables peuvent m'écraser quand elle veut, si je ne suis pas plus fort que le destin, en tout cas, je suis bâti pour lutter avec lui, et même s'il l'emporte, je ne lui serai jamais soumis. Voilà, c'est cette idée-là. Alors, quand on est anarchiste, le sentiment que l'homme perturbe l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, ça donne des gens qui vivent la loi comme une contrainte. Quand on est poète, ça donne des gens dont l'âme veut être un paysage choisi. C'est le romantisme. Romantisme, pour le coup, de Verlaine. Quand on est poète encore, ça donne des individus dont l'inquiétude cherche son pareil dans le vœu des regards. On a besoin du suffrage d'autrui, on a besoin de se conforter dans le suffrage d'autrui, puisqu'on a besoin d'étayer en permanence ce sentiment que nous avons de troubler l'ordre de la nature. Donc on a besoin de chercher nos pareils dans le vœu des regards. Ou bien ça donne l'individu dont la défaite n'est acceptable que si elle est empanachée, c'est Cyrano. Ok, je suis moins fort que la bûche qu'on a fait tomber du haut d'un immeuble sur ma tête, mais je meurs avec panache. Voilà. Ça donne l'individu, par exemple, dont l'éventuel suicide est vécu, si j'ose dire, comme une conquête de liberté, comme une façon de renouer avec sa liberté. C'est les stoïciens, par exemple, auxquels Spinoza s'oppose ici de façon frontale. Voilà. Tout ça, c'est contenu dans l'idée que l'homme perturberait l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit. Voilà. Et tous ces comportements sont contenus dans cette phrase. C'est ça qu'il faut donner à entendre à nos auditeurs. Hein. Chaque phrase de l'éthique comprend des comportements qui sont vraiment des comportements qu'il est aisé d'éprouver, dont il est aisé de se souvenir. Ce sont les mêmes qui considèrent que la science des miracles. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle ? Tiens, c'est quoi un miracle, Paola ?
C'est ce qui est justement contraire à la nature, c'est ce qui arrive en dehors d'elle.
Et c'est ce qu'on se représente comme étant contraire à l'ordre naturel. Mais écoutez le texte que Spinoza consacre au miracle, c'est au début du chapitre 6 du traité théologico-politique. On va demander à Georges Clès de lire ce texte, écoutez.
De même que cette science qui dépasse la compréhension de l'homme est appelée divine, les hommes ont l'habitude d'appeler « ouvrage divin », c'est-à-dire « ouvrage de Dieu », un ouvrage dont la cause est ignorée du vulgaire. Celui-ci pense en effet que la puissance et la providence de Dieu n'apparaissent jamais plus clairement que lorsqu'il semble arriver dans la nature quelque chose d'insolite et de contraire à l'opinion qu'il en a d'habitude. Cela surtout si cet événement est cause pour lui d'un gain ou d'un avantage. Et il estime qu'une preuve plus claire ne peut être donnée de l'existence de Dieu qu'une apparente dérogation à l'ordre de la nature. Pour cette raison, cela lui semble supprimer Dieu, ou au moins la providence de Dieu, qui explique les choses et les miracles par des causes naturelles ou s'applique à les connaître clairement. Il estime, autrement dit, que Dieu n'agit pas aussi longtemps que la nature agit suivant l'ordre habituel, et au contraire, que la puissance de la nature et les causes naturelles sont inactives quand Dieu agit. Il imagine donc deux puissances numériquement distinctes l'une de l'autre, la puissance de Dieu et celle des choses naturelles, cette dernière étant déterminée cependant par Dieu d'une certaine manière, ou créée par Dieu, comme la plupart préfèrent le croire aujourd'hui. Ce qu'il entend par l'une et l'autre, et aussi par Dieu, il n'en sait rien. sinon qu'il imagine la puissance de Dieu semblable au pouvoir d'une majesté royale, celle de la nature semblable à une force déchaînée. Le vulgaire, donc, appelle miracle ou ouvrage de Dieu les ouvrages insolites de la nature et, tant par dévotion que par désir de protester contre ceux qui cultivent les sciences de la nature, préfère ignorer les causes naturelles des choses et ne veut entendre parler que de ce qu'il ignore le plus et, par suite, admire le plus. Et la puissance de Dieu ne lui paraît jamais plus admirable que lorsqu'il se représente la puissance de la nature comme vaincue par Dieu.
On retrouvait un peu cette idée du miracle chez Montaigne aussi.
À quel moment ?
Lorsqu'il fait référence aux monstres, à ceux qu'on prend pour des monstres, des enfants qui naissent difformes.
Oui, vous avez raison.
Et il explique que c'est seulement notre ignorance qui prend ça pour un miracle, alors qu'en réalité, c'est tout à fait dans l'ordre de la nature.
Pour Spinoza, notre ignorance fait que nous tenons pour un effet du hasard, c'est-à-dire aussi éventuellement une volonté divine. Le hasard, entre guillemets, c'est-à-dire la série causale qui nous tombe dessus. C'est ce qui fait que notre ignorance, le hasard est la mesure de notre ignorance, l'idée de hasard même est la mesure de notre ignorance. Notre ignorance est également ce qui fait que nous tenons pour, les preuves de l'existence de Dieu, les preuves de l'existence de Dieu sont aux antipodes de la nature. C'est Dieu se manifeste quand il détourne l'ordre naturel. Dieu n'est jamais si présent à l'âme humaine, à la crédulité humaine, que quand il fait un truc qu'on ne peut pas faire. En gros, pour que Dieu existe, il faut marcher sur l'eau, si vous voulez. Les preuves de l'existence de Dieu, c'est des trucs qui surmontent l'ordre naturel. Alors, par quelle intoxication collective les humains se persuadent qu'on a pu marcher sur l'eau, ça c'est une autre histoire. C'est un autre problème, on ne va pas rentrer dans la diatribe. Bon, c'est pas l'idée. Mais c'est intéressant de voir que les hommes se persuadent eux-mêmes que Dieu n'existe ou ne se manifeste que par des décisions contre nature. Genre, sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle, Marie Simon-Pierre ou Bénédicte Simon-Pierre, guérie de la sclérose en plaques, je ne sais plus. Bon, y a une commission qui a été réunie, une commission ad hoc, qui a été réunie au Vatican, une commission de scientifiques et de théologiens pour conclure au fait que c'était un miracle. Ce qui n'a absolument aucun sens. Et grâce à ce miracle, on a pu béatifier Jean-Paul II. On a considéré qu'au fond, c'était un miracle réalisé par Jean-Paul II. Mais je veux dire, c'est la cour des miracles, dans ces cas-là, le Vatican. Ça n'a aucun sens. Et on est chez les fous. C'est stupide. C'est absurde. D'ailleurs, les jésuites hurlaient contre ça, parce que voulez-vous, être jésuite, c'est faire preuve d'usage de rationalité dans des mesures au moins décentes et considérer que tenir pour un miracle la guérison, certes miraculeuse, entre guillemets, d'une personne, et considérer par là même que c'est donc l'effet... non, elle avait Parkinson, bien sûr. Elle avait Parkinson, elle a guéri de Parkinson. Or, Jean-Paul II avait Parkinson, c'est donc que Jean-Paul II, au fond, a guéri cette sœur de Parkinson. C'est QFD, si vous voulez. Il est donc démontré que c'est un miracle. Bref, on a interprété en termes miraculeux ce qui relève d'une nécessité naturelle, même pas d'un hasard d'ailleurs, mais d'un concours de circonstances qui fait que cette dame, et Dieu merci, a été sauvée, provisoirement. En général, on se représente la présence de Dieu dans la nature comme quelque chose qui surmonte la nature. Or, que Spinoza enseigne ? Spinoza enseigne que le vrai miracle, c'est pas de marcher sur l'eau, c'est de marcher sur la terre. Le vrai miracle, c'est que les choses soient ce qu'elles sont, c'est pas que les choses ne soient pas ce qu'elles sont. C'est pas possible que les choses ne soient pas ce qu'elles sont. On peut pas remonter le cours d'un fleuve. Il n'y a pas ce genre de miracle en ce sens-là. Non, le vrai miracle, c'est que l'objet en question posé sur le fleuve suive exactement les trajectoires dictées par les courbes aqueuses du fleuve, elles-mêmes dictées par la forme des alluvions et des sédiments qui se trouvent sur le sol et les conditions climatiques, etc. Là est le miracle. Le miracle, il est dans le fait que les choses soient ce qu'elles sont, pas dans le fait qu'elles cessent d'être ce qu'elles sont ou qu'elles se suspendent provisoirement pour témoigner d'une sorte de pouvoir surnaturel. L'idée même de surnature n'a aucun sens. Soit les choses existent, soit elles n'existent pas. Si on est surnaturel, on joue sur les deux tableaux, de l'existence et de l'inexistence. On est dans la nature puisqu'on existe et on est surnaturel puisqu'on fait quelque chose que la nature, que les lois de la nature ne permettent pas. Ça veut rien dire. Ça veut rien. C'est idiot, c'est la superstition. Voilà, Spinoza est un adversaire, un déconstructeur de la superstition. C'est la même chose, si vous voulez. Ce que Spinoza permet de penser, par exemple, c'est imaginez qu'un jour, Dieu vienne vous parler dans votre sommeil. « Oh, toi, Paola, ce que t'as fait hier, c'est mal, ou ce que t'as fait hier, c'est bien. » Enfin, Dieu vient vous parler. Voilà. Même pas dans votre sommeil, de votre vivant. Une entité descend du ciel et vient vous voir pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le simple fait que cette entité parle votre langue, descend du ciel, vous regarde, déjoue les lois
faut
de
se
la
méfier. Hein,
ben, comment dire, votre tâche consisterait à expliquer à cette chose qui vient vous parler avec cet attirail ou cet accoutrement que puisqu'elle vient vous parler, c'est qu'elle n'est pas Dieu, contrairement à ce qu'elle dit. C'est ça qui est intéressant. La voix de Dieu, si vous voulez, on entend la voix de Dieu. Vous savez, c'est comme dans les 10 commandements de Cécile B2000 où il y a Dieu avec des éclairs qui arrivent pour graver les commandements dans les tables de la loi. C'est un peu kitsch. Le simple fait de faire parler Dieu prouve que ça n'est pas Dieu qui parle. C'est ça que Spinoza permet de penser. Si quelqu'un venait vous parler du ciel en vous disant « voilà ce que t'es, voilà ce que tu seras, voilà ce que tu as fait, etc. », vous auriez pour tâche d'expliquer à ce quelqu'un que contrairement à ce qu'il pense lui-même, il n'est pas Dieu. Puisqu'il se... existant, il endosse les inconvénients du fait d'exister. Et il a une dimension, voire un visage, enfin n'importe quoi, si vous voulez. Spinoza, sur les miracles, est grandiose. Hein, montre véritablement, il y a une pensée du miracle chez Spinoza. Mais c'est un miracle qui n'a rien à voir avec le fait de déroger aux lois de la nature. Parce que ça, c'est pas possible. Sinon, une dérogation aux lois de la nature doit être incluse dans les lois de la nature. Donc c'est pas une dérogation. Allez. Donc il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de miracle. Ou plus exactement, il n'y a pas de miracle en ce sens-là. De la même façon que Dieu ne se manifeste pas en contournant les lois de la nature, mais au contraire, Dieu, ce sont les lois de la nature. Il n'y a rien d'autre à comprendre chez Spinoza que cette trouvaille extraordinaire.
Si je reprends la phrase d'où on est parti, ouais. Il croit en effet que l'homme trouble, ou perturbe selon les traductions, l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit, qu'il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même sa détermination. On s'était promis d'expliquer chacun des termes, mais on n'en a fait qu'un sur trois.
On est à un tiers. On est à un tiers de la phrase et on est même à un tiers de l'avant-propos, Paola. Donc si vous lisez dans mes pensées...
On remet ça.
On remet ça. À dimanche prochain, on continue sur Spinoza. C'était pas prévu. C'est comme ça. Disons, appelons ça le hasard ou alors un miracle.
Ou le destin.
Ou le destin. Merci Paola, merci à tous, François Connac à la réalisation, Philippe Mercher à la technique et évidemment Georges Claes dont vous aurez reconnu la voix. Nous voilà contraints, j'ai presque envie de dire à contre-cœur alors qu'en réalité c'est une joie, nous voilà contraints de revenir dimanche prochain sur ce texte, l'avant-propos de la troisième partie de l'éthique de Spinoza, cette fausse géométrie de nos passions, ou plus exactement cette façon que Spinoza a, par la géométrie, de montrer que rien de ce qui est humain lui est étranger. Retrouvez cette émission sur Internet, je vous le dis à chaque fois, à la page du Gai Savoir, où vous attendent téléchargement, écoute en ligne et les indications bibliographiques sur Facebook également. Dans l'intervalle, retrouvez, si la philosophie vous manque, les nouveaux chemins de la connaissance qui, alors toute la semaine, abordent avec Myriam Revaud-Allonne et à l'occasion de la parution du livre dans la collection des questions de caractère, un dialogue entre Myriam Revaud-Allonne et Adèle Van Rett, les nouveaux chemins aborderont donc la question redoutable de l'obstination. De la persévérance et de l'obstination, c'est dans les nouveaux chemins, tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Et puis, retrouvez
comme chaque mois, Philosophie Magazine, qui vous attend dans les kiosques ou dans les bonnes librairies, avec cette fois-ci Aristote et le courage au programme, un dossier d'Alexandre Jolien et de Pierre Pellegrin, ainsi que, par exemple, un dialogue entre Dominique Blanc et Paul Venn sur la mémoire et l'amitié, que je vous recommande, et puis un autre dossier, si j'ai bonne mémoire, sur l'art de faire son deuil. Philosophie Magazine, c'est tous les mois dans les kiosques qu'on rebaptise ainsi librairie. Cette heure sur France Culture, dans un instant, l'atelier du pouvoir.